Alors, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 16, si tout le monde a trouvé sa place. Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude, pas plus que les églises de Dieu. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, c'est que vous vous assemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Et d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions, et je le crois en partie. Car il faut qu'il y ait aussi des sectes parmi vous, afin que ceux qui soient approuvés soient reconnus comme tels au milieu de vous. Donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire? Ou méprisez-vous l'Église de Dieu et faites-vous honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, qu'un grand nombre sont morts. Si nous nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous, je réglerai les autres choses quand je serai arrivé. Énormément de choses dans les versets qu'on vient de voir. On ne pourra pas tout voir. On va se focaliser sur ce verset 26. Où il nous dit, car toutes les fois que vous mangez ce pain, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Bon, il ne donne pas de temps imparti, n'est-ce pas? Il ne dit pas tous les dimanches. D'ailleurs, si on revient à ce que les premiers chrétiens faisaient dans le livre des Actes, ils se réunissaient tous les jours, pas toutes les semaines. Est-ce qu'ils prenaient le repas du Seigneur tous les jours? Non, j'en doute. Donc, il laisse à cette discrétion. L'important, ce n'est pas à quel tendance, à quel rythme on le prend, c'est de faire, de le faire, de le prendre, et de ne pas oublier de le faire. Et si vous venez depuis un petit moment, vous savez que pour nous, ici, on a choisi de le faire une fois par mois, tous les premiers du mois. Et il n'y a pas de mal à cela. Il n'y a pas de mal de le faire plus souvent. Il n'y a pas de mal de le faire une fois tous les deux mois non plus. L'important, c'est d'obéir, de le faire. Et comme nous allons le voir, le repas du Seigneur, ce n'est pas la célébration de la Pâque. C'est complètement différent. La Pâque est primordialement, centrée autour de la résurrection de Christ. Alors que la Sainte Cène a tout à voir avec la mort de Christ. Et quand nous apportons une prédication au moment de la Pâque, donc de la résurrection, logiquement, va être mise en avant. Parce que, à la fin, le moment de la Pâque, c'est un moment pour le chrétien de réjouissance, de fête, même de célébration. Christ est ressuscité. Alors que le sentiment au moment du repas du Seigneur, c'est un moment qui doit être rempli de respect, un moment solennel. La joie y est inclue à cause de ce que ça représente, mais pas avant d'avoir quand même eu ce moment où on se concentre autour du souvenir de la mort de Christ pour que je puisse être sauvé. Ce sont deux choses liées, mais deux choses bien différentes. Dieu ne nous a pas donné une ordonnance pour nous rappeler de la résurrection de Christ. Il ne nous a pas donné une ordonnance pour nous rappeler de la naissance de Christ. Il n'y a pas de mal de nous rappeler de ces choses, de mettre une journée à part pour célébrer ces moments. Mais il nous a donné une ordonnance pour nous rappeler de la mort de Christ. Et donc, on va voir pourquoi. Ce matin, pourquoi Dieu désire voir ses enfants venir ensemble, de s'assembler en tant qu'Église pour se rappeler ensemble, justement, spécifiquement de la mort de Christ. Et nous devons, il est vrai, vivre, je crois, chaque jour dans la vérité de la résurrection de Christ. Mais nous devons venir ensemble pour nous rappeler de la mort de Christ pour nos péchés. Encore une fois, le verset 26 nous dit « à chaque fois que vous mangez, à chaque fois que vous buvez cette coupe ». Donc dans le contexte qu'on a pris un peu le temps de lire, nous voyons l'apôtre Paul en train de parler aux chrétiens de l'église de Corinthe. Ce n'est pas nécessairement l'église avec le meilleur des témoignages, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, on a vu quelques-uns des problèmes qu'il leur disait. Vous faites ceci, ce n'est pas bien. Vous devriez faire ceci à la place. Vous faites ceci, mais je vous en conjure, arrêtez, changez votre façon de faire et façon d'être. Mais au milieu de tout cela, malgré cela, il leur dit qu'il faut continuer à être fidèle dans l'accomplissement de cette ordonnance. Et il essaye de les aider en remettant l'accent sur pourquoi et comment ils doivent prendre le repas du Seigneur. Dieu a donné à l'Église seulement ce qu'on appelle ces deux ordonnances, deux ordres, deux choses que l'Église doit faire pour symboliser et se rappeler de ce que Christ a fait. Il y a le baptême, à l'effet de toutes les nations, les baptisants, qui est ce symbole de la mort et la résurrection de Christ, et le repas du Seigneur, ce pain et cette coupe qui représentent son corps et son sang qui a été versé pour nous, en mémoire de lui. Ce ne sont pas des sacrements, elles ne sont pas utiles pour le salut, ce sont des choses que Dieu a voulu qu'on fasse, pas pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, pour rendre témoignage du salut qu'il nous a déjà offert. Alors pourquoi est-ce que Dieu a donné cette ordonnance à l'Église? Qu'est-ce que lui désire voir à travers la pratique du repas du Seigneur? Alors, la première chose que je vois, Dieu désire voir qu'on vienne en tant qu'Église hein, pour prendre ce repas à cause de la façon que justement cette ordonnance illustre la mort de Christ. Rien que dans les aliments que nous prenons à travers le pain et la coupe, elle illustre la mort qu'il a subie. Que ce soit le pain qui représente son corps ou le jus de raisin qui représente son sang, les deux passent par un processus qui en elle-même fait illustration de la mort de Christ. Alors, pour le pain, il faut d'abord, vous le savez, hein, planter les graines et là où la semence est, qui elle-même meurt pour pouvoir grandir et produire son fruit et ses tiges. Et cela malgré le temps, malgré le froid, malgré l'hiver auquel elle doit passer à travers. Elle grandit. Puis d'une tige, elle continue à grandir et produire des épis. Et avec le temps encore, supportant aussi bien la chaleur que la pluie et juste le temps et le temps qui passe, arrive enfin le moment de la moisson. Un moment toujours pas très agréable, parce qu'on vient, la couper. Et puis vient suivi de l'abattage. On vient arracher les épis de sa tige. Surtout à l'époque, on va les jeter en l'air pour laisser le vent emporter tout ce qui est inutile, etc., etc. Et ensuite, c'est pas fini. Il va continuer. Il va prendre ses graines. On va les écraser encore et encore pour en faire de la farine. Et puis avec cette farine, on va y mélanger les ingrédients qu'on veut selon le type de pain qu'on veut. Et on va le prendre, et on va le masser, on va le battre, on va le taper selon le besoin. Mais ce n'est pas un moment doux et agréable et tranquille. Mais ce n'est toujours pas fini encore. Il faut ensuite mettre cette pâte au feu, le faire cuire, pas trop longtemps, mais pas sortir trop en avance non plus. Et je sais que j'aurais pu être encore bien plus précis dans le déroulement du processus de la plantation, de la semence, jusqu'au moment où nous pouvons apprécier enfin d'avoir ce pain chaud entre les mains, mais je crois que vous aurez compris. Et on pourrait faire un parallèle similaire avec le processus du jus de raisin, n'est-ce pas? Mais ne pouvez-vous pas faire le parallèle avec cela et la vie même de Jésus-Christ, qui lui devait venir pour mourir, pour que d'autres aient la vie, qui lui devait grandir pour être rejeté, qui devait garder un témoignage malgré l'oppression et malgré l'opposition, qui lui, notre salut doit passer par pour ainsi dire, l'épreuve du feu de la croix, pour qu'il puisse en ressortir victorieux, ne dit-il pas lui-même, de par ses propres mots, « Je suis le pain de vie » En Jean chapitre 6, verset 47 et suivant, on nous dit, « en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé de la manne du désert, ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement, et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Comme pour toute chose que Dieu fait, les symboles qu'il veut utiliser pour représentait, symbolisait surtout lui-même ou sa mort. Ce n'est pas à nous de les prendre à la légère. Oh, ben, c'est une belle image. Mais Dieu n'a pas choisi ce symbole au hasard. Et nous ne devons pas prendre ces symboles à la légère non plus. Et on ne doit certainement pas prendre cette ordonnance à la légère non plus. Le repas du Seigneur a tout à voir avec la mort et comment Dieu n'a rien épargné pour que nous puissions avoir la vie éternelle, avoir ce pain de vie. Elle illustre la façon que Christ est mort, une vie qui n'a d'autre but que celui de mourir pour les autres. Une vie pas facile, pas nécessairement, mais nécessaire et utile pour notre besoin. Mais c'est aussi, quand je vois ce verset 26, que c'est un témoignage pour les autres. Quand nous prenons ce repas du Seigneur et le symbolisme qui est attaché. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous ne sommes pas seulement en train de nous rappeler, nous, de sa mort, mais nous rendons témoignage à tous présents. Christ est mort pour moi. Et quand je prends ce pain, quand je prends cette coupe, je rends témoignage. C'est ce corps qui est mort pour mes péchés et je l'ai accepté. C'est un témoignage pour tous ceux présents qui ne peuvent pas dire la même chose. Parce qu'on est en train de rendre témoignage que cette mort qui était suffisante pour me sauver est une mort qui est suffisante pour vous sauver vous aussi. Il dit bien dans ce verset qu'à chaque fois qu'on prend ce repas, qu'on est en train de quoi annoncer. Vous annoncez sa mort. On ne l'annonce pas à nous, on le sait déjà, on l'a déjà accepté. Il ne dit pas non plus, à chaque fois que vous prenez ce pain, vous vous rappelez de sa mort. C'est un effet logique secondaire. Mais là, l'accent est mis, vous l'annoncez. Donc, ça rend témoignage envers les autres de qui Christ est pour moi. Il est mort pour moi. Son sang est versé pour moi. Je suis sauvé grâce au sacrifice de Christ. Et vous pouvez l'être aussi. Quand nous prenons ce pain et cette coupe, nous déclarons que nous croyons que Christ a pris notre place sur la croix. Que c'est moi qui méritais de mourir, que c'est mon corps qui méritait d'être battu, que c'est mon sang qui méritait d'être versé, mais que Christ a pris ma place et j'ai accepté ce que Christ a fait pour moi. À chaque fois qu'on prend ce repas, on est en train d'annoncer ça à tous ceux présents. Il s'est donné, lui, volontairement, pour payer notre dette, le prix de nos péchés, à notre place. En prenant ce pain et cette coupe, on annonce que cette mort n'est pas que pour nous, elle est pour vous aussi. Si vous n'êtes pas encore sauvé, la mort de Christ est toujours tout aussi efficace aujourd'hui. Tout toujours aussi capable de vous sauver, de vous purifier, de vous laver de tout péché. Christ a déjà tout payé. Vous pouvez l'accepter aussi facilement que nous l'avons fait pour moi il y a des années de cela. On reviendra peut-être là-dessus, Dieu voulant. Mais nous nous rappelons cette vérité à chaque fois que nous prenons la Sainte Cène et nous témoignons de cela en le faisant également. Mais on peut le faire parce que c'est également une mort que nous réalisons, que nous témoignons, qui est acceptable envers Dieu. Que Dieu accepte le sacrifice de Christ à la croix à ma place. C'est tout le symbolisme qui est donné dans ce repas du Seigneur. Seigneur, tu es mort pour moi. Ton sang est versé pour moi. Il me purifie, mais cela seulement parce que Dieu accepte ce sacrifice à ma place. Je sais que je ne mérite pas le salut. Je sais que mes œuvres ne pourraient jamais être suffisantes ou bonnes pour recevoir le salut, mais je sais également que tu acceptes l'œuvre de Christ sur la croix. Pour le prix de mon péché. Et je peux prendre de ce pain, je peux prendre de cette coupe, parce que tu ne refuses pas le sacrifice de Christ. Et parce que tu ne refuses pas son sacrifice, je suis accepté devant toi. Merci Seigneur pour cela. Vous connaissez peut-être le passage en Romains chapitre 5, versets 8 et suivants, nous disent « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés, Il précise, nous sommes justifiés par son sang. Serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Réconciliation avec qui ? Entre nous et Dieu le Père, à travers son Fils Jésus-Christ. Réconciliation impossible si Dieu le Père n'acceptait pas le sacrifice de son Fils. Chaque fois que nous prenons ce repas, nous témoignons pas seulement de ce que Christ m'a sauvé, Christ a pris ma place, mais également que Dieu a accepté ce prix à ma place, comme paiement de mes péchés, comme paiement de moi qui ne mérite pas d'être sauvé. Je suis couvert par le sang de Christ et je suis acceptable devant lui. Et c'est pour cela que c'est une mort qui donne la vie. C'est justement parce que le sacrifice de Christ est acceptable devant Dieu, pour le prix de notre péché, que Dieu peut nous donner une nouvelle vie en Christ, si nous voulons bien l'accepter par la foi. Sans la mort de Christ, nous serions tous, sans exception, voués à mourir dans notre péché, voués donc à aller en enfer, où nous serions tous obligés d'admettre « je mérite d'être ici, je ne mérite pas d'être ailleurs ». C'est pourquoi nous prenons ce pain et cette coupe avec un mélange d'humilité, de joie et aussi de reconnaissance. Le tout autour de la réalisation que Christ a souffert tellement plus qu'on ne puisse l'imaginer, pas parce que je le mérite, mais par amour pour nous, par amour pour moi, pour que moi, Philippe Abed, puisse vivre au ciel avec lui aussi, pour l'éternité. Comment puis-je dire que je puisse mériter une telle chose ? 1 Jean chapitre 5, verset 11 et suivant nous disent « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné, pas vendu, pas échangé pour nos bonnes œuvres, mais pourquoi Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez, pas que vous aurez, mais que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Vous qui placez votre foi dans le sacrifice de Christ sur la croix pour votre péché, rien d'autre. C'est la seule chose qui soit acceptable aux yeux de Dieu. C'est la seule chose qui puisse nous sauver. Et quand nous prenons ce repas, nous témoignons de cela. Je crois cela et je sais. Parce que Dieu a dit, je suis sauvé. Je sais ce qui m'attend. Et je loue le Seigneur pour ça. C'était un sacrifice parfait de la part de Christ, qui offre un salut parfait à un être imparfait, qui ne mérite pas un si grand salut. Mais c'est aussi une mort qui nous unifie. Nous sommes réunis ce matin et nous avons tous des choses qui nous unissent en étant là. Mais nous avons également beaucoup de choses qui nous différencient, n'est-ce pas ? Mais même si nous avons des points de vue qui peuvent différer sur certaines choses, quand nous prenons le repas du Seigneur, nous devrions tous être d'accord, tous être unis autour de ce point central de la mort de Christ pour nous. Ceci fait partie de notre témoignage. Un témoignage que nous démontrons à chaque fois que nous prenons le repas du Seigneur, que nous sommes des personnes avec des personnalités différentes, nous avons des expériences différentes, nous avons un historique différent, nous avons des dons et des talents différents, nous avons grandit en maturité de différents niveaux, pour ainsi dire. Et même quand nous sommes venus dans ce lieu ensemble, nous avons des besoins différents et une façon même d'adorer Dieu un peu différemment à travers ce culte ce matin. Mais quand nous prenons le repas du Seigneur, nous devrions avoir tous le même témoignage. Nous reconnaissons le sacrifice de Christ pour notre péché. Nous sommes unis autour de la personne même de Christ. Nous sommes unis autour de sa mort. La mort pour moi. 1 Corinthiens 10, 15 et 16 nous dit « Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang de Christ ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ ?» À chaque fois, il rappelle si. La communion que nous avons, ce qui vient ensemble, nous venons ensemble, unis. Alors oui, il n'est pas étonnant que Dieu ne nous dise pas de nous rappeler régulièrement de la résurrection ou de la naissance ou je ne sais quoi d'autre, mais qu'on doit non seulement se rappeler de sa mort, mais de le faire avec tout le symbolisme qui est attaché. Le pain représentant son corps qui a tant souffert, et la coupe représentant son sang versé pour nous. Mais la façon que la Sainte Cène représente la mort illustre, la mort n'est pas la seule raison pourquoi Dieu veut nous voir obéir à cette ordonnance. Dieu désire nous voir être fidèles et nous rappeler de la mort de Christ aussi à cause de la doctrine qui y est attachée. C'est une doctrine qui est vitale, indispensable, primordiale, immuable. Il est évident que la Bible est remplie de vérités, toutes plus importantes que les autres, je suis d'accord, mais cette vérité-ci, la doctrine même de Christ prenant notre place pour le prix de notre péché, est au centre de toute la Bible. Nous voyons les Écritures y faire référence déjà en Genèse, même si on ne prend que Genèse 3,15. Nous voyons cette vérité illustrée à travers le sang aspergé sur les montants des portes pour que les premiers-nés ne soient pas tués lors des fléaux en Égypte. Nous continuons à voir cette vérité illustrée dans les sacrifices que le peuple d'Israël devait apporter pour leurs péchés. Et beaucoup pourrait être dit là-dessus, mais on n'a pas le temps ce matin. Également à travers la façon que Dieu leur a instruit à fabriquer, établir le tabernacle et autres. Et que dire des psaumes? Beaucoup de psaumes font référence à ceci. Ou que dire du livre d'Ésaïe? Ce n'est pas que le Nouveau Testament et les Évangiles, c'est toute la parole de Dieu qui est centrée autour de cette vérité, cette doctrine primordiale. Christ est mort pour mes péchés. Sans lui, il n'y a pas de rédemption. Sans le sacrifice de sa vie, je ne peux pas être sauvé. C'est une vérité vitale et indispensable. Hébreux chapitre 9, versets 11 et suivants nous disent, c'est parce que je ne demande pas à ce que vous preniez ma parole pour être vrai. Lisez pour vous-même ce que Dieu dit dans sa parole. En Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé. Pourquoi est-ce qu'il utilise cette image? Il a traversé le tabernacle, qui était le préfigurateur des choses à venir. Plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Parfait, pur, sans tache, sans péché, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant? Dieu désire nous voir prendre ce repas à cause de la doctrine qui y est attachée. Et parce que cette doctrine, elle est primordiale et vitale, il savait que cette doctrine allait être attaquée. Elle va être sous attaque constamment. Et depuis le tout début, l'homme a toujours voulu remplacer la mort de Christ par ses propres œuvres. L'homme a toujours voulu remplacer ce que Dieu voulait avec ce que lui préférait. Quelle folie! Certains diraient, comment pouvons-nous espérer remplacer la perfection divine avec notre imperfection humaine? Voici ce que Dieu a mis en place et établi pour le salut de l'homme, et nous on veut le remplacer par nos œuvres imparfaites. Quelle folie! À travers les années, l'homme a voulu remplacer le sang de Christ par tout ce qu'il pouvait penser. Certains disaient que le sang était trop vulgaire, trop choquant. Alors laissez-moi vous lire un autre passage en Hébreu, toujours en Hébreu 9, les versets un peu plus loin, en versets 22 et suivants, nous disent « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ, et ensuite il va donner toute une définition de pourquoi Christ est ce sacrifice parfait, il en revient au verset 28, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Alors encore une fois, nous pourrions facilement continuer à voir et étudier cette vérité que Dieu désire voir son Église prendre le repas du Seigneur parce qu'elle illustre, elle symbolise la mort de Christ, parce que ça nous permet de rendre témoignage de ce sacrifice de Christ à ma place qui m'offre le salut. parce que cette doctrine est vitale et qu'elle sera attaquée, et le plus qu'on puisse en rappeler et en rendre témoignage, le plus que ça va aller contre justement ces attaques et remettre les choses dans le bon ordre, dire non, n'écoutez pas ce que le monde nous dit, voici la mort de Christ, et la mort de Christ seule peut nous sauver, nous laver de tous nos péchés. Et je dois terminer avec cette dernière phrase qui nous donne dans ce verset 26, dit « Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Jusqu'à ce qu'il vienne. La première pensée que certains pourraient avoir en lisant cette phrase, c'est oui, Dieu dit que on ne doit pas s'arrêter de prendre le repas du Seigneur, on doit le faire jusqu'à son retour. Et c'est vrai, c'est une partie des choses qu'il enseigne. Mais je vois deux autres enseignements qui semblent encore plus importants pour moi que celui-là. Le fait que l'Église doit continuer à le faire de génération en génération jusqu'à son retour m'enseigne que la mort de Christ reste efficace jusqu'à ce qu'il vienne, jusqu'à son retour. Certains diraient, ben oui, bien sûr, on le sait, mais rappelez-vous que cette ordonnance doit également servir de témoignage pour les autres. Nous prenons ce repas et nous prenons cette coupe avec reconnaissance parce que nous acceptons et réalisons que sans le sang de Christ, qui nous purifie de tout péché, nous serions condamnés. Et de la même façon, si vous n'avez pas encore, vous, accepté le sang de Christ pour rédemption de votre péché, le sacrifice de Christ à la place de votre sacrifice que vous devriez donner pour votre salut, qui ne sera jamais suffisant parce que vous n'êtes pas parfait comme Christ l'a été, ben vous pouvez encore l'accepter aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Qu'on prenne ce repas, nous serve de rappel pour nous, pour nous encourager, nous motiver, etc. Mais ça sert de témoignage envers les autres. Vous aussi, tant qu'on peut continuer à prendre ce repas, c'est-à-dire que Christ n'est pas revenu, vous avez encore la capacité d'être sauvé aujourd'hui même. Comme on l'a chanté, tel que vous êtes, tel que je suis, je viens à toi. Prends-moi, parce que tu as tout fait. Christ a tout fait sur la croix. Christ est mort pour moi. Je ne peux rien rajouter à la perfection. Je t'accepte. J'accepte la mort de Christ pour mes péchés. Je sais que Dieu accepte la mort de Christ pour mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Sauve-moi. Et il est fidèle et juste pour pardonner tous ceux qui viennent à lui. À chaque fois que l'Église prend le repas du Seigneur, nous sommes en train de rendre témoignage. Le sang de Christ est toujours aussi efficace aujourd'hui pour le salut de votre âme qu'il ne l'a été au moment de sa mort. Pour nous, quand un de nos membres... Bon, je vais revenir à cela, je m'avance un peu. Le sacrifice de Christ sera toujours plus que suffisant pour sauver absolument n'importe quel pécheur. Personne ne peut dire « mes péchés sont plus puissants que le sang de Christ pour moi, que le sacrifice de Christ pour moi ». Mais attention, c'est également une mise en garde qu'il arrivera à un temps où il sera trop tard. Mais l'autre enseignement que cette phrase m'enseigne jusqu'à ce qu'il vienne, ça veut dire que ça implique pour moi qu'il y aura toujours une église au moment de son retour aussi. Et ça m'encourage. Ça m'encourage de savoir, si Dieu dit « faites ceci en mémoire de moi jusqu'à ce que je vienne », ça veut dire qu'il y aura toujours une église quand il revient. Malgré les attaques, malgré la persécution, malgré ce que le monde veut faire, l'église de Christ prévaudra. Elle sera là. Et c'est à nous, en tant qu'Église, à ce moment-là, de continuer à faire notre responsabilité, d'obéir à cette ordonnance. Parce que depuis le livre des Actes, il y a toujours eu une Église biblique sur cette terre. Elles ont porté différents noms à travers les époques, parfois un nom qu'elle s'est donné elle-même, mais bien plus souvent un nom que d'autres leur ont donné. Mais une Église biblique a toujours été présente. Et le fait est, Christ a établi son Église, elle a toujours été là, et elle sera encore présente lors de son retour, et sinon, Dieu n'aurait pas dit « faites ceci jusqu'à ce qu'il vienne, mais faites ceci aussi longtemps que possible ». L'histoire nous confirme que peu importe la persécution, aussi bien à l'époque du Nouveau Testament, même dans la ville même de Rome, qu'il y a toujours eu au moins une, sinon parfois plusieurs, petites églises qui se réunissaient quand même. Que ce soit dans une forêt, dans une grotte, on a les histoires qui nous... montre qu'ils se réunissaient dans les maisons et même dans les catacombes. Mais il y avait toujours une petite assemblée qui se réunissait en tant qu'église et qui continuait également à prendre le repas du Seigneur en mémoire de la mort de Christ. Personnellement, ça m'interpelle toujours. Nous, avec notre confort d'aujourd'hui, où un rien ne nous empêche parfois de venir à l'église, je me rappelle souvent des témoignages de ces églises persécutées qui se réunissaient en sachant que peut-être aujourd'hui serait le jour où ils vont se faire attraper, vont se faire prendre. Je me rappelle, il y a des années de cela, j'étais très jeune ado, je devais même être 12 ou 13 ans, j'ai entendu le témoignage d'un pasteur d'une église en Russie qui, à l'époque, était un gouvernement qui cherchait activement à mettre en prison les chrétiens, ce qu'on appelait à l'époque le rideau de fer. Et la Bible était interdite. Si vous en aviez une, elle était brûlée, vous étiez vous-même emprisonné, rien que pour en avoir possédé une en votre possession. Et je vais paraphraser un peu parce que ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Déjà qu'elle n'était pas très bonne à l'époque. Mais je rappelle qu'une personne avait demandé à ce pasteur s'il enviait les églises qui se trouvaient dans des pays non persécutés, qu'ils pouvaient donc se réunir en toute liberté et sans crainte. Et ce pasteur a répondu qu'au début, oui, jusqu'à ce qu'il réalise un point important qui l'encouragea quand il est retourné en Russie. Il dit que vous autres, qui ne subissez pas l'oppression et la persécution comme nous, qui ne mettez pas votre vie sur la ligne à chaque fois que vous vous réunissez, vous devez faire face à un autre problème qui, à mes yeux, est encore plus grave que la persécution. Vous devez faire face à la tentation. Nos églises, à cause de la persécution, enlèvent beaucoup, pas tout, mais énormément des tentations que vous devez faire face. Pour nous, on est constamment en train de chercher comment céder, comment se protéger, comment s'encourager les uns les autres. Quand quelqu'un n'est pas présent lors de l'une de nos réunions, pour vous, vous dites, bon, c'est pas si grave. Il a eu un empêchement, il ne se sentait pas très bien ce jour-là, parce que, pour ne pas dire qu'il n'avait pas envie de venir. Pour nous, quand un de nos membres n'est pas présent, on se demande, est-ce qu'il s'est fait attraper par la police? Est-ce qu'il a pu garder le secret de où on allait se réunir ou est-ce qu'on doit partir et chercher un autre lieu? Pour vous, vous avez la tentation et dit de ne pas venir si vous n'en avez pas envie ou si vous avez autre chose qui vient prendre la place en utilisant l'excuse bah, « c'est juste cette fois, c'est pas si grave ». Pour nous, ce n'est jamais une question de si nous allons aller à l'église, c'est allons-nous avoir un culte tranquille ou allons-nous devoir partir en courant en espérant que personne ne se fasse attraper. Alors, mais l'histoire nous montre aussi que ces persécutions n'ont jamais réussi à faire taire l'Église. La persécution, comme au temps des actes, a fait en sorte que l'Église se propage. Alors oui, jusqu'à ce qu'ils viennent m'encouragent. Pour moi, c'est une indication de plus que rien ne prévaudra contre l'Église. Que les chrétiens viennent et vont, mais l'Église de Christ sera toujours présente lors de son retour, et ça m'encourage. Quand nous prenons le repas du Seigneur, nous témoignons que de la même façon que Christ a été, lui, persécuté, frappé, mis à mort, nous savons et nous acceptons que l'Église ne sera pas toujours acceptée, parfois elle sera persécutée et rejetée, et j'accepte cela. Jean chapitre 15, verset 18 et suivant nous disent « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. » Il y aura toujours des personnes pour s'opposer à l'évangile. Il y aura toujours des personnes pour s'opposer à la personne même de Christ. Toujours des personnes pour s'opposer à la doctrine de la mort de Christ à la place de notre péché. Mais il y aura également l'Église du Dieu vivant qui continuera à apporter ce témoignage en annonçant la mort de Christ pour le péché du monde, jusqu'à ce qu'il vienne, même si ce n'est qu'à travers l'obéissance de la Sainte Cène. Donc, pour conclure, jusqu'à ce qu'il vienne, il y a un déroulement, processus, raisonnement logique, il va venir. Il va venir. Dieu désire nous voir le servir de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. Dieu désire qu'on se rappelle l'importance de la mort de Christ, pas seulement qu'il est mort, mais comment Christ est mort? Pourquoi Christ est mort? Qu'est-ce que ça m'apporte que Christ soit mort? Qu'est-ce que je serai sans sa mort? Pas seulement qu'il est mort, mais comment il a été rejeté, comment il a souffert et qu'il a tout accepté. Rappelez-vous de ce passage où il a dit qu'il aurait pu appeler 10 000 anges pour venir à son rescousse. Pas qu'il en avait besoin. Il aurait pu dire une parole. Il aurait été libéré lui-même. Mais il s'est donné volontairement. Par amour pour nous. Il nous a offert d'office son pardon pour nos péchés. Et que c'est à nous de venir et accepter ce pardon par le sacrifice de Christ. Dieu savait que le plus qu'une vérité est primordiale, le plus qu'on doit s'en rappeler, et le plus qu'elle est importante, le plus qu'elle sera attaquée. Mais prenons courage. Dieu se charge de protéger son Église. Alors occupons-nous à notre tâche à continuer à témoigner de la mort de Christ, de la puissance du sang de Christ, pour sauver quiconque croit en lui. Et cela jusqu'à ce qu'il vienne, parce qu'il va revenir. Éphésiens chapitre 1, verset 3 et ensuite verset 7 nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. » Ah ça, on aime bien ce verset, parce que c'est vrai. Et qui n'aime pas les bénédictions? Verset 7 « En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de ce que nous méritons. » Non. Selon la richesse de sa grâce, faveur qu'on ne peut pas mériter. Tant que Christ n'est pas revenu, le salut en Christ est possible pour quiconque croit. Son sang reste efficace. Proclamons cela dans notre vie, proclamons-le en tant qu'Église. Rappelons-nous-en pendant qu'on va prendre dans un instant ce repas, de ce que cela implique. Et de ce que ça représente. Et pourquoi Dieu veut voir son Église commémorer sa mort encore et encore, et avec la joie qui est également attachée.